les jardinières.
Le soleil n'est pas encore levé que nous sommes déjà prêts à vous accueillir chez les jardinières. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Et pour répondre à nos questions jardinage, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Caravellas. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Stéphane Caravellas, vous êtes responsable maraîcher à la microferme biologique La Rochette à Charmoille. Merci d'être avec nous ce matin.
Bienvenue chez les jardinières, on prend soin de vos végétaux durant une heure.
7h, 8h, les jardinières.
Stéphane, les températures restent incroyablement douces pour la saison et on attend carrément tous avec impatience la pluie. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin ces jours ?
C'est vrai qu'à défaut de pluie, il serait peut-être nécessaire d'arroser des fois. Ça dépend si vous avez encore pas mal de légumes au jardin ou pas. Nous, c'est ce qu'on fait. Après, c'est la saison qui se prête bien au nettoyage de toutes les plantes, de tous les légumes qui ont fait leur cycle. Toutes les plantes qui sont montées en graines, ça peut être intéressant de récupérer leurs graines justement si on veut les multiplier l'année prochaine. Donc que ce soit des légumes, que ce soit des fleurs ou des fruits, etc. C'est la période aussi, c'est un petit peu tard maintenant, mais en tout cas le mois de septembre, c'était la période de faire toutes les boutures, si on voulait faire des boutures de petits fruits pour les multiplier l'année prochaine, les boutures de framboises, de fraises, etc. Et puis c'est aussi la période qui se prête au rajout de compost et de matière organique sur le potager.
Merci beaucoup Stéphane. En deuxième partie d'émission, vous répondrez aux questions de nos auditeurs. Des questions qu'on attend soit par téléphone au 0900 70 20 20. Vous aurez la chance de parler en direct à notre spécialiste. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site internet avec la possibilité cette fois de joindre une photo à votre question. Ou alors, troisième et dernière possibilité, par SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question. Vous terminez par votre nom et il suffit de l'envoyer au 939.
Dans la suite des jardinières, Stéphane nous parlera de rotation de culture et d'association de légumes au potager.
7h, 8h, les jardinières.
Dans le jardinage, on se pose souvent la question de la rotation des cultures et de l'association de ces cultures. On va tenter d'y voir un peu plus clair en compagnie de notre spécialiste ce matin, Stéphane Caravellas. Alors Stéphane, on va commencer par parler de la rotation des cultures. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
La rotation des cultures, c'est un peu, tout se trouve dans le mot, évidemment. Donc c'est l'idée de, après une culture donnée, de la remplacer par une autre, etc. Soit sur l'espace d'une année, par exemple si c'est des longues cultures, genre des grandes cultures, des céréales, ou bien sur des périodes plus courtes, au potager par exemple, par rapport à différents légumes. Sur un même espace, en fait, on va cultiver un légume, puis un autre, etc. On dit souvent en veillant à ce qu'il y a une période de temps suffisamment grande entre chaque culture identique pour que la terre puisse se régénérer, qu'il n'y ait pas forcément d'insectes ou de maladies qui puissent s'installer et puis attaquer la même culture, etc. Enfin bon, on va voir tout ça.
Mais est-ce que cette rotation des cultures, elle joue un rôle important dans le potager ?
Alors, dans un potager, selon la taille du potager, évidemment, mais plus le potager est petit, plus le rôle est moindre. Dans un sens où la rotation des cultures, je pense qu'elle a vraiment son sens à partir du moment où on a des grands espaces, des grandes surfaces qui sont cultivées d'une seule plante. Donc ça vaut pour les grandes surfaces, mais même dans un potager, si par exemple on a un carré qui fait 300 mètres ou 300 mètres carrés où on met que des pommes de terre par exemple, ça peut être intéressant quand même de faire une rotation à ce niveau-là. Après, si c'est un potager qui fait en total 50 mètres carrés et puis qu'on a des rangs de carottes, de choux, de laitues, etc., c'est un petit peu moins son sens.
Stéphane, est-ce que la rotation des cultures peut améliorer ou améliore la fertilité de la terre ?
C'est sûr qu'à partir du moment où une plante pousse, elle modifie le sol et elle l'améliore pour son propre bien, entre guillemets. Mais faut savoir qu'une plante, ben, elle, voilà, on va pas rentrer trop dans les détails, mais elle, en fait, elle a des relations assez particulières avec certaines bactéries et micro-organismes du sol qu'elle nourrit en fait avec ses racines. Et puis en retour, en fait, tous ces micro-organismes lui permettent de vivre bien en rendant en fait toutes ces bactéries, elles rendent disponibles certains minéraux dans le sol que la plante ne pourrait pas forcément aller chercher d'elle-même en fait. Et puis du coup, bah, le fait d'avoir une plante qui pousse à un endroit, ça a un impact sur le sol et ça dynamise et voilà la vie du sol. Donc oui, on peut dire que dans tous les cas, à partir du moment où il y a une culture, ça améliore le sol. Donc après, le fait qu'il y ait des rotations, je ne pense pas, ça dépend aussi quelle plante est-ce qu'on veut mettre dans notre rotation, si on veut tout d'un coup casser une rotation de légumes par une plante fixatrice d'azote ou bien un engrais vert, bah là ça peut valoir, effectivement ça peut avoir un effet sur le sol, clairement. Ouais.
Mais Stéphane, est-ce qu'il y a des avantages écologiques dans la rotation des cultures ?
Alors, on peut en trouver dans un sens où si les plantes changent de manière rapide au fil de la saison, eh ben, au niveau écologique, ça peut voilà, attirer différents insectes à différentes périodes de l'année, par exemple, différents pollinisateurs. Puis après, bah voilà, comme j'ai dit juste avant, ça a un effet aussi sur le sol. Donc écologiquement, ça a aussi un effet bah, sur tout le reste, sur les insectes qui vont potentiellement venir nicher, par exemple, dans le sol, ou bien pondre, ou comme ça. Donc oui, je pense que dans tous les cas, à partir du moment où il y a des plantes, il y a un impact écologique sur l'environnement. Ouais.
Stéphane, vous êtes responsable maraîcher. Est-ce que dans votre exploitation, vous pratiquez justement la rotation des cultures ?
Alors non, pas dans un sens où je viens de le dire par rapport à voilà, laisser un espace défini entre chaque culture identique. Ça non, parce qu'en fait on pratique plus des associations de cultures. Donc sur l'année, sur un même espace, en fait, il y a plusieurs cultures qui passent. Si on prend le même mètre carré pendant une année, il va voir passer en tout cas 5 plantes différentes, en tout cas minimum, sur cet espace-là, quoi. Donc en fait, non, on ne fait pas de rotation parce que sur une année, en fait, il y a tellement déjà de mélanges que voilà, on n'a pas forcément de bloc de plusieurs mètres carrés où il y a une seule culture. Voilà.
Merci beaucoup Stéphane, on se retrouve dans quelques minutes. Nous parlerons de l'association des légumes au potager.
7h, 8h, les jardinières.
Nous sommes en compagnie de Stéphane Caravellas, maraîcher dans une micro-ferme biologique. Stéphane, vous nous avez parlé de la rotation de culture. Parlons maintenant de l'association des légumes. Alors, comme pour la première partie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'association de légumes, même si, juste en disant le terme, on pourrait le comprendre ?
Oui, alors tout à fait. Après, l'association de légumes, donc ça consiste en fait à, sur un même espace, voilà, planter différentes sortes de légumes pour en fait optimiser un petit peu l'espace au potager. Et puis optimiser, si on veut aussi, la relation qu'ils peuvent avoir l'un à l'autre. Par exemple, certains légumes repoussent certains insectes qui attaquent son voisin. Et ben, ça peut être intéressant de le planter à côté de ce dit voisin, par exemple. Voilà. Ou bien après, il y a des plantes, voilà, par exemple, fixatrices d'azote, qui peuvent apporter, ou en tout cas, d'autres plantes peuvent bénéficier de cette capacité-là. Donc ça peut être intéressant de les associer pour voilà, optimiser un petit peu l'espace et puis aussi ben, voilà, la relation qu'ils ont l'un à l'autre, quoi.
Et Stéphane, vous, dans votre jardin, est-ce que vous pratiquez l'association de culture ?
Alors oui, d'un côté oui, mais pas forcément l'association qu'on peut trouver dans les livres un peu de jardinage qu'on trouve partout, quoi, et puis qui nous embrouille l'esprit. Parce que il y a l'association, voilà, justement, recherche de ces relations que les plantes elles ont l'une à l'autre, qui peuvent vite devenir assez compliquées. Nous, ce qu'on pratique, c'est plus une association dans l'espace et dans le temps. C'est qu'on, nous, on cherche l'optimisation de notre espace et l'optimisation de nos récoltes dans le temps. C'est-à-dire que par exemple, on a sur un même mètre carré des légumes qui poussent en hauteur et des légumes qui poussent plus plus tapissants, qui prennent moins de place, et on peut les associer sans qu'ils se gênent l'un à l'autre. Ou bien bah, planter sous un légume longue durée, par exemple un chou, semer ou planter des laitues ou des radis qui sont beaucoup plus rapides, et on peut les récolter avant que le chou soit, prenne trop de place, par exemple. Et là, on optimise en fait, l'espace. Donc c'est plutôt ça qu'on fait, quoi.
Là, vous avez parlé de choux et de laitues et de radis. Est-ce que vous avez quelques autres exemples de combinaisons de légumes où ça match, comme
ouais.
on dit ?
Ouais, ouais. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Et puis, on peut en, fait, en inventer autant qu'on veut, tant qu'on connaît un petit peu la nature des légumes qu'on veut planter. La nature, c'est-à-dire la taille qu'ils prennent et puis la durée dans le temps. Mais j'en dis quelques-uns. Par exemple, il y a radis et carottes. Ça va très bien ensemble. On peut les semer en même temps sur un même espace. Les carottes prennent très long à germer, à pousser. Les radis sont beaucoup plus rapides. Et puis, en fait, ils vont prendre l'avance sur les carottes, faire un petit peu d'ombre qui sera favorable à la germination des carottes. Et puis, on pourra récolter les radis avant que les carottes prennent trop de place. Voilà, par exemple, ça, c'est tout simple. Sinon, après, il y a plus connu, carotte-poireau. Donc, on sait que le poireau, il éloigne la mouche de la carotte et puis la carotte, la mouche du poireau. Voilà, donc on les associe, on sème des carottes et entre les rangs, on plante des poireaux. Voilà. Ou bien, quelque chose d'un peu plus compliqué, on peut associer la tomate avec laitue radis au début de cycle. Ensuite, on les récolte, laitue et radis, pendant que la tomate continue son cycle. Ensuite, on plante au milieu de l'été du basilic, qui va voilà, se développer. Ensuite, on récolte le basilic au moment où la tomate a beaucoup de feuilles, beaucoup de fruits, et il n'y a pas beaucoup de lumière au sol. Et en fin de saison, on peut planter des épinards au pied des tomates qui vont en fait prendre le relais durant l'hiver. Donc en fait, sur un même espace, on aura eu tomates, laitues, radis, basilic, épinards. Voilà.
Merci beaucoup Stéphane de nous avoir permis d'y voir un peu plus clair dans la rotation et l'association de culture. On va continuer d'en parler après un peu de musique, la météo et l'inforoute.
Les jardinières.
Suite des jardinières, nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Caravellas, responsable maraîcher à la microferme biologique La Rochette à Charmoy dans le Jura.
Et les jardinières, c'est votre émission et on vous offre la possibilité de poser vos questions jardinage directement à notre spécialiste. Pour cela, vous avez trois possibilités pour le faire par téléphone au 0970 20 20. Vous avez aussi le choix du site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières, avec la possibilité cette fois de joindre une photo. Ou alors, troisième possibilité, par SMS, vous tapez jardin, un espace, avec votre question et votre nom, et vous nous envoyez ce message au 939.
Stéphane, en première partie d'émission, vous nous avez parlé de rotation de culture et d'association de légumes. On voulait revenir un petit peu sur ce point. Vous nous avez parlé que les choux et les laitues s'entendent bien, les carottes et les poireaux, les tomates et les laitues, basilic et épinards, ça fonctionne. On va parler un peu des étés qui sont de plus en plus chauds, les automnes aussi, d'ailleurs. On peut penser à associer des plantes qui pourraient faire de l'ombre à d'autres pour leur permettre une bonne croissance. Ça fonctionne aussi ?
Oui, oui, ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'on a intérêt à faire ça en prenant les cultures d'été qui sont souvent grandes, sous laquelle on peut cultiver facilement des laitues ou des petites herbes un peu plus sensibles au chaud, quoi. Après, il y a aussi un petit conseil qui marche très très bien et puis qu'on a expérimenté hein, plusieurs fois, c'est de palisser les courges, donc de les faire grimper. Parce que quand on est dans un petit potager, on n'a pas beaucoup de place souvent. Et en les faisant grimper, on gagne de la place. Parce que finalement, la courge, ça prend 5 cm carrés au sol, hein, si on la fait grimper. Et puis, elle fera du coup de l'ombre pendant toute la saison à d'autres cultures. Selon comment l'orientation sur laquelle on place le palissage, on peut facilement cultiver après des légumes dessous. Vraiment aisément. Et puis bah, les courges, c'est assez ludique aussi de les voir grimper, de faire des fruits comme ça en hauteur, même des gros, hein, ça tient très très bien, tant que le palissage tient. Mais voilà, la plante ne va pas se casser, quoi. Puis ouais, c'est assez intéressant. Ouais.
Voilà. Et Brian, est-ce que vous êtes avec nous ?
Ah.
Non, nous avons perdu Brian. Donc moi, je vais vous poser la question, Stéphane, une dernière question. Là, vous avez parlé des courges. Est-ce que vous avez un conseil aux personnes qui se disent « Ah ben tiens, ça c'est une bonne idée d'associer des légumes. » Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Pardon, je perds mes mots ce matin.
Ce que je peux leur conseiller, c'est de vraiment d'essayer. Parce qu'il y a toutes sortes de combinaisons. Il n'y a pas forcément de... Enfin, à mon avis, on peut associer quasiment tous les légumes ensemble. Ça, c'est voilà, sans prendre trop la tête. Mais ce qu'il faut veiller, c'est un peu le volume que prend chaque plante. Et puis, on ne va pas mettre deux plantes très volumineuses l'une à côté de l'autre, ou bien en laissant pas mal d'espace entre elles. Mais l'idée, voilà, c'est essayer de prendre les légumes tels qu'ils sont, l'espace qu'ils prennent, le volume qu'ils prennent, et en fait de les combiner avec d'autres qui... Voilà, comme j'ai dit au début, il y en a qui sont plus en hauteur, il y en a qui sont plus tapissants, il y en a qui ont des cycles très rapides, d'autres beaucoup plus lents. Et ben, c'est vraiment juste d'associer en fait à ce niveau-là, quoi. Et puis, allez-y, parce que c'est vraiment pas très compliqué. Si on prend juste ces quelques notes-là de la nature de la plante, et ben, on peut vraiment, vraiment s'amuser, quoi. Sans forcément se perdre dans des livres compliqués sur les associations et tout ça, quoi.
Les jardiniers disent souvent testez, essayez chez vous et puis vous verrez bien ce qui marche. Voilà.
Ouais, parce que ce qui marche chez le voisin, ça va pas forcément marcher chez vous et vice versa. Donc voilà, c'est toujours au jardinage, en tout cas, dans la nature, tout ce qui est voilà, attrait au métier de la nature, etc. Ben, on peut se permettre de refaire les mêmes erreurs parce que ça peut fonctionner chez nous et pas ailleurs ou l'inverse, quoi. Donc voilà.
Merci beaucoup Stéphane, on va se retrouver dans un instant après une petite pause musicale et là il sera temps de répondre aux questions de nos auditeurs.
7h, 8h, les jardinières.
7h43 chez les jardinières, il est temps de répondre à vos questions, des questions qu'on attend par exemple via le formulaire Brian.
Exactement, sur notre site internet, vous allez sous l'onglet émission questions jardinières et vous pouvez remplir ce formulaire en nous joignant une photo. Et autre possibilité pour nous envoyer vos questions, le SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question, vous terminez par votre nom et vous nous envoyez ce message au 939.
Stéphane, nous avons reçu une question de Virginie de Peseux qui nous dit « Bonjour, j'ai oublié de ramasser une courgette dans mon jardin, elle est devenue très grosse, est-ce que je peux récupérer les graines pour les semer l'année prochaine ? Si oui, merci de m'expliquer comment faire. Elle nous souhaite déjà un bon week-end. Merci Virginie.
Ouais, alors il y a plusieurs choses. Si t'as pas encore arraché ton plant de courgette, tant mieux, parce que faut vraiment le garder jusqu'à ce qu'il soit quasiment mort. Comme ça, on est sûr que la courgette est bien mûre et que les graines à l'intérieur sont bien mûres. Après, il y a une autre chose. Est-ce que c'est une courgette biologique, donc reproductible ou pas ? Parce que si c'est une non bio, non reproductible, ça sert à rien de récupérer les graines. Mais si c'est le cas, bah oui, alors tu peux récupérer la courgette, l'ouvrir, sortir les graines, les passer à l'eau pour les nettoyer un petit peu, enlever la chair et puis les laisser sécher derrière une vitre ou n'importe comme ça au soleil et puis les garder pour l'année prochaine, ouais, sans souci.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane. On a une question sur le basilic de Mallory, Brian.
Bonjour, j'ai un super mignon basilic d'intérieur. Il est resté longtemps magnifique et sans moucheron, mais depuis 2 semaines, il devient un peu jaune et perd de sa vitalité. Sa terre reste très sèche. Comment faire pour le rebooster ? Niveau ensoleillement, il est placé vers une source lumineuse, mais pas en plein soleil ni trop proche d'une vitre. Merci d'avance pour votre réponse.
Ouais, alors, si c'est un basilic, je pense que tu as acheté à Landy ou dans une jardinerie, à mon avis. Ça, c'est souvent le cas où, au bout d'un moment, en fait, le terreau dans lequel il est s'épuise et il n'y a plus de nutriments et puis du coup, il jaunit. Après, il faut savoir que les basiliques sont aussi des plantes annuelles, donc elles font dans tous les cas un cycle. Au bout d'un moment, elles meurent, quoi. Après, normalement, elles doivent aller monter en fleurs, faire leurs graines et ensuite mourir. Mais après, voilà, comme j'ai dit, comme c'est un basilic qui a été cultivé en serre ou comme ça, voilà. Mais après, ce que tu peux faire, c'est déjà renourrir la terre, mettre de l'engrais dans ton pot, l'arroser parce que ça a besoin de pas mal d'eau aussi, et puis le rempoter, à mon avis. Ça peut être aussi une bonne chose. Tu le rempotes dans un pot un petit peu plus grand avec de la nouvelle terre, un peu d'engrais, et tu l'arroses. Et puis voilà, espérer que ça reprenne. Mais après, s'il a déjà commencé à jaunir, je suis pas sûr qu'ils reprennent maintenant, surtout que la luminosité baisse avec la saison. Voilà, le basilic, il est quand même sensible à ça aussi.
Une question en plus sur le basilic, Stéphane. On pourrait imaginer, par exemple, on peut acheter maintenant des lampes pour avoir dans sa cuisine du basilic toute l'année. Ça marche vraiment ? C'est bien ?
Ça, j'imagine que ça marche parce qu'il y en a qui cultivent des légumes comme ça chez eux en hiver, donc avec lumière artificielle. Mais moi, j'ai jamais fait, donc je ne saurais trop m'attarder là-dessus, quoi. Ouais.
tester, comme d'habitude. On a encore une question de Jannick de Courtelary. Elle a un olivier, j'ai un olivier dehors, il est tout sec, mais il reprend en bas du tronc. Comment je dois faire Elle demande si elle doit couper le sec, c'est-à-dire l'arbre, et laisser les jeunes pousses. Couvrir simplement pour l'hiver, ça suffit. Ou est-ce qu'il faut le rentrer? Donc on va peut-être prendre dans l'ordre. Est-ce qu'elle doit le couper? Première question.
Alors, il faut déjà s'assurer qu'il est vraiment sec. Puis s'il est sec, oui, tu peux le couper, ça va rien... Voilà, ça ne va rien changer. Si tu le trouves joli, tu peux lui accrocher quelques petites boules de Noël. Comme ça, bah, très, très bien. Mais ça ne va rien lui faire si tu le coupes la partie sèche. Couvrir simplement pour l'hiver, ça suffit ou pas? Est-ce qu'il faut le rentrer? Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est devenu sec. Est-ce qu'il a pris les gelées l'hiver passé, par exemple? Ça, c'est possible. Alors, si c'est le cas, eh ben, faut le rentrer parce qu'on ne va pas réitérer la même expérience, hein, j'imagine. À mon avis, de le couvrir et le laisser dehors, ça ne va pas suffire. Donc, si tu peux le couvrir et le rentrer, par exemple dans un garage, même ça, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est, de toute façon, la saison d'hiver, elle est comme ça. Donc, il va savoir que c'est cette saison-là et il va quand même pouvoir passer l'hiver dans un endroit relativement tempéré. Voilà, donc, c'est ce que je conseille, en tout cas, que tu le rentres. Ouais.
Merci beaucoup, voilà. Stéphane. On va continuer de vous retrouver dans un instant, juste après une petite page musicale.
Les jardinières.
7h52 chez Les Jardinières, c'est le dernier moment pour répondre aux questions que nous avons reçues avec vous, Stéphane Caravellas. On a reçu une question de Michel de Courfèvre qui nous parle de ses pivoines. Il a deux sortes de pivoines, des pivoines arbusives et des pivoines tiges. Alors, on va déjà parler des pivoines tiges. Il aimerait savoir s'il peut déjà rabattre ces fameuses pivoines tiges.
Alors, si les feuilles, les tiges commencent à brunir, à sécher, etc., oui, il peut sans doute le faire, ou bien attendre tranquillement que ça se fasse tout seul. Et puis là, il suffira de tirer sur les tiges et ça va se détacher en fait des rhizomes dessous, quoi. Et puis après, pour ce qui était...
Les pivoines arbusives, ouais. Il aimerait savoir s'il peut tailler le bois sec.
Alors, j'imagine que oui, s'il est sec, ça ne va rien faire de mal. Enfin, ça ne va pas faire de mal à la plante. Ouais, donc c'est tout ce que je peux dire. Après, je ne l'ai pas comme ça devant moi, donc je ne peux pas trop voir à quoi ça ressemble.
Il ne nous a pas envoyé de photos aujourd'hui.
Ouais, mais effectivement, je veux dire, si c'est sec, et puis qu'il est sûr que ça ne va pas reprendre l'année prochaine, sans autre, il peut commencer à tailler pour voilà, le rendre un petit peu plus joli. Tailler au-dessus d'un bourgeon, hein, d'un bourgeon bien vigoureux qui va repartir l'année prochaine. Juste veiller à ça et puis voilà quoi.
Merci beaucoup Stéphane. Le soleil est maintenant levé. Il est temps pour les jardiniers d'aller au potager. Dites-nous Stéphane, qu'est-ce que vous proposez de faire aux jardiniers et aux jardinières amateurs ces jours?
Alors c'est la bonne période pour s'occuper un petit peu de notre terre, de lui donner du compost, du fumier, pour le préparer à l'hiver qui va venir. C'est aussi, comme on a vu avec les pivoines juste avant, c'est aussi la période du nettoyage. Donc toutes les plantes d'été qui ont fait leur cycle, les rabattre, les amener au compost, récupérer les graines là où on peut récupérer les graines, si on veut multiplier les plantes l'année prochaine. Il y a une question aussi sur la courgette. De nouveau, si vous avez encore des grosses courgettes au jardin que vous avez oubliées et qui sont devenues entre guillemets immangeables, même si on peut toujours les manger en soupe ou comme ça, n'hésitez pas à récupérer leurs graines si c'est des graines biologiques, des plants biologiques, pour les multiplier l'année prochaine. Et puis comme ça, vous aurez vos courgettes qui seront adaptées à chez vous. Et vous verrez qu'au fil des années, en fait, les plantes que vous allez multiplier vous-même par les semences, en fait, vont changer un petit peu d'aspect, vont devenir beaucoup plus vigoureux, beaucoup mieux adaptés en fait à chez vous, et vous y gagnerez en fait à tout point quoi.
Enfin, voilà. Merci. Merci beaucoup Stéphane pour votre visite et vos conseils. On rappelle que vous êtes responsable maraîcher à la microferme de la Rochette à Charmoille. On se réjouit de vous retrouver dans une prochaine émission. Bon week-end.
Bon week-end, merci.
Merci beaucoup Stéphane. Samedi prochain, les jardinières vous emmènent en forêt pour une émission spéciale champignons. Nous serons en compagnie de Gaëlle Mona, contrôleuse en champignons à Neuchâtel. On va peut-être pouvoir déguster des bons bolets, on verra tout ça. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine au potager, un bon week-end à vous Brian.
Merci à vous aussi.
Et un bon week-end à toutes et à tous. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Les jardinières seront de retour donc samedi prochain dès 7h.
7h, 8h, les jardinières.